When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, la course à pied et aussi le lifestyle sportif. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juillet, oui le temps passe vite. Aujourd'hui j'ai couru 7,5 km, oui c'est pas une grosse séance, hein. En ce moment ce ne sont pas des grosses séances. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, hein, ou Bertrand Soulier sur Instagram, vous allez me trouver assez facilement. Et si vous me trouvez, si vous me suivez aussi sur Strava, vous allez voir tout simplement que je fais des... on va dire 3 à 4 séances par semaine, mais des petites séances, ben, tout simplement parce que j'ai des nouvelles chaussures et que je suis en train de me faire à mes nouvelles chaussures. Alors je vais vous en parler un petit peu, et puis ensuite je vous parlerai de deux livres que je vous recommande, de deux conseils lecture que je trouve vraiment très 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 intéressants, et qui je pense tombent à pic, hein, parce que nous rentrons dans une période qui est une période assez intéressante pour beaucoup d'entre vous, peut-être certains vous en avez l'habitude, et peut-être d'autres vous n'avez pas du tout l'habitude, et ben c'est la préparation des marathons d'automne. Oui, il y a un an de ça, hein, à peu près, quand je commençais à lancer le podcast d'ailleurs, parce que le podcast aura un an dans quelques temps, dans quelques jours, et ben j'étais dans la préparation du marathon de Lyon, qui est début octobre. Et ben oui, quand on fait un programme sur 12 semaines, et ben quand on est sur les marathons type Lyon, type Berlin, qui va être Bordeaux aussi, Toulouse, Clermont aussi, des choses comme ça qui vont arriver, on va rentrer dans les semaines de préparation, hein, sur juillet pour certains, mois d'août. Je pense, hein, que ces deux livres seront assez intéressant pour vous en lecture. Mais d'abord, je vais vous donner quelques nouvelles. Je vous ai dit, je courais pas beaucoup, tout simplement parce que je suis en adaptation de nouvelles chaussures, mais ce qui m'empêche pas de commencer à regarder un petit peu, hein, au niveau des programmes de course, etc. Alors, on m'a posé la question. Je le redis et je le dis tout le temps, je ne ferai pas d'autres marathons cette année. Alors vraiment, à moins qu'on me propose un truc, une opportunité vraiment super, etc., je suis pas vraiment vraiment pas parti pour faire un autre marathon cette année. Et puis je pense même que mon emploi du temps sera assez compliqué, tout simplement parce que avec ma femme qui va faire des formations, il y a des week-ends où je ne pourrai tout simplement pas courir le samedi et le dimanche, et donc faire des préparations, des sorties longues, etc., ça serait plus compliqué à gérer, faudrait les gérer en semaine avec les jours qui raccourcissent. Je pense vraiment que ça deviendrait très compliqué. Je dis pas que ce serait impossible, je dis juste que ça serait très compliqué de placer ces sorties là, et donc c'est plus raisonnable aussi, tout simplement, hein, de se dire on va partir plutôt sur des courses qui sont plus simples à préparer en gardant des séances d'entraînement avec le club, et puis quitte à rajouter une séance en semaine tout seul pendant que ma fille est à la crèche par exemple, hein, c'est ce que je faisais le mardi après-midi. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder, sur le mois d'août je vais faire un petit 8 km, hein, voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, une fois qu'il sera passé. J'ai programmé à 10 km le 1er septembre, 10 km à EFIA. Je pense qu'il est toujours maintenu, c'est la première année qu'ils le font, voilà, j'avais reçu une invitation, c'est une ancienne collègue, hein, qui m'avait envoyé l'invitation, elle habite là-bas, je pense que le club où elle court, donc je me dis que ça pourrait être sympa, donc pour l'instant j'ai mis dans mon programme. Je me pose aussi la question, dans les jours, je crois que c'est la semaine suivante, il y a le trail, le grand trail de Clermont. Alors qu'il y a plusieurs parcours qui chaque année varient, l'an dernier j'avais fait le 23 km, quelque chose comme ça, c'était pour moi c'était une sortie longue qui avait été super casse-pattes, vraiment super casse-pattes, hein. Je crois qu'après j'avais dit je ne recommandais pas de faire du trail pour préparer un marathon, ou alors vraiment du trail très roulant, mais pas du trail avec du dénivelé très casse-pattes comme on avait eu là. J'avais fait le 23, donc j'ai eu fait le 12. Cette année, ils ont ce qu'ils appellent la directissime. La directissime, en fait, c'est avec du dénivelé négatif. Ils amènent les coureurs au départ au sommet du Puy-de-Dôme, et puis l'arrivée se fait dans la plaine, avec quand même du dénivelé, il y a beaucoup de dénivelé négatif, bien sûr, parce qu'il y a la descente, mais il y a quand même du positif dedans, hein. C'est-à-dire que vous descendez 1800 mètres, peut-être au total, mais vous en remontez 700 et quelques, sachant sachant que le Puy-de-Dôme est à 1460 mètres, qu'on descend à 400 mètres, vous voyez, ça fait 1000 mètres. Si vous voulez faire 1600 de dénivelé, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut remonter puis redescendre. C'est un coup à faire Gergovie, à faire plein de petites montagnes, etc. J'ai failli me laisser tenter, je crois qu'il y a 30 et quelques kilomètres. J'ai failli me, franchement, à un moment donné, je me suis dit, ah, tiens, je vais m'inscrire là-dessus. Et puis, je me suis dit, non, ça correspond vraiment pas à ce que je veux faire. Je dis, je voulais pas faire de trail, c'est pas pour m'engager sur un 35 ou 36 kilomètres. En revanche, il y a un nocturne, voilà, l'an dernier, il l'avait déjà fait, j'aime bien les trails en nocturne, et donc, je vais peut-être me laisser tenter par le trail nocturne qui doit se courir le samedi soir. C'est la montée de Gergovie, donc c'est le même parcours que le parcours de jour qui fait 12 kilomètres, que j'avais fait il y a 2 ans, voilà, qui est un parcours plutôt sympa. Gergovie, c'est une petite montagne en apparence, mais une montagne qui est très raide quand même. Il y a des belles descentes, avec des descentes, mais il y a même des cordes, hein, sur certains endroits, etc. Et donc, j'ai décidé que j'allais peut-être m'engager là-dessus. Pourquoi j'ai un doute? Ben tout simplement parce que je vous l'ai dit, je suis en période d'adaptation à des nouvelles chaussures. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur mon IGTV, hein, sur la partie vidéo d'Instagram, où je vous ai présenté mes nouvelles chaussures, mes achats pour les soldes. Alors j'ai acheté deux paires de chaussures pendant les soldes. La première, c'est les Escalante Racer modèle Paris Marathon de Paris 2019. Alors celles-là, je les avais vues au salon du running la veille du Marathon de Paris, et je les avais trouvées vraiment, vraiment très belles. Les escalantes d'Altra, c'est les chaussures avec lesquelles je cours depuis que j'ai fait ma périostite. L'ostéo que j'avais vu m'avait conseillé de partir sur un modèle d'Altra, ce que je cours en Altra Taurine. Et en fait, elles avaient des semelles qui étaient trop importantes par rapport à mon pied. Donc il m'a dit de partir sur des chaussures plus minimalistes. Alors mes Altra Taurine avaient un coefficient de minimalisme autour de 46%. Les escalantes, il y a plusieurs modèles. Les racers, elles sont à 76%, donc déjà on monte bien. Et là, les racers Paris, en fait, elles ressemblent vraiment. Je pense que mes escalantes que j'avais avant, je crois que c'était des escalantes. Vous voyez, une évolution du modèle. A priori, c'était quand même des racers. Elles sont marquées, elles ont les mêmes identifiants, etc. à l'intérieur. Juste le mesh change, il a l'air beaucoup plus fin, et puis surtout qu'est-ce qu'elles sont belles avec marqué Paris 2019, les dessins des petits monuments, etc. Elles sont vraiment super belles. Je voulais pas les acheter dans le marathon de Paris, tout simplement parce que c'était, je suis pas superstitieux, mais quand même je me dis, oh, allez, tu ne les achèteras que si vraiment tu les mérites et que tu as le droit de les porter parce que tu as couru le marathon. Donc voilà, j'ai acheté, je les ai trouvées en solde, et donc j'ai fait une bonne affaire parce qu'elles étaient bien soldées, et plutôt que les acheter plein pot au salon du running. Et puis revenons à cette adaptation des chaussures. J'ai acheté un deuxième modèle de chaussures. Là aussi, si vous me suivez sur Instagram, pas de surprise. Sinon, ben, c'est un modèle qui s'appelle, c'est des Five Fingers de Vibram. Alors, si vous voyez pas à quoi ça correspond, vous savez, c'est des chaussures qui ont des doigts. Au lieu d'avoir une, ce qu'ils appellent la toe box, hein, chez Altra, mais chez partout, vous savez, le pied. Ou que vous avez le pied, où vous avez tous les orteils ensemble, hein, on va dire, comme si votre chaussure était une moufle, et ben, enfin une moufle avec juste une poche, quoi. Et ben là, vous avez une poche pour chaque doigt. Oui, ils appellent ça des poches. Donc, vous devez mettre chaque orteil, hein, vraiment dans les petites poches. Alors, c'est la première fois, c'est pas facile, vraiment pas facile. Et là, au niveau de coefficient minimalisme, on est à 96%. C'est-à-dire que si votre pied est à 100% minimalisme, et ben là, on est juste un petit peu en dessous. Qu'est-ce qui change? Et ben tout simplement, il y a une semelle, hein, en Vibram dessous, donc une semelle qui est assez épaisse, mais qui est quand même très souple, et quand je dis assez épaisse, attention, c'est que quand on marche sur un caillou, on le sent passer. Et oui, parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je suis en pleine adaptation de ces chaussures-là. J'ai fait presque 70 km, hein, je crois, aujourd'hui, au total. C'est-à-dire qu'à force de faire des séances de 7 ou 8 km, bah, à la force d'en faire 3 ou 4, ça finit par monter. Alors, j'ai passé peut-être, on va dire, 65 km. Allez, on va couper la part en deux. J'ai pas regardé sur mon Strava exactement. Et tout va bien. Vraiment, tout va bien. Alors, je dis, j'ai fait une adaptation un peu rapide, hein, vraiment. Je fais un peu rapide. Comme je viens de Altra, qui est en drop 0, et que là, vraiment, forcément, on est en drop 0 aussi, je me dis qu'en fait, j'ai moins de temps d'adaptation à faire, en tout cas, sur la partie, tirage de mollet, etc. Vous voyez, ça tire moins que si je partais avec des chaussures du drop 10 et que j'allais sur du drop 0 et du minimal total. Là, non, vraiment pas. Mais quand même, je sens que ça tire un petit peu sous les pieds, parce que bon, le pied pose pas pareil. Moi, pour moi, ça me permet de finir ma transition vers une foulée médio-pied, donc plutôt poser l'avant du pied, parce que j'ai toujours tendance à talonner. Et là, je peux vous garantir que avec les Five Fingers, autant avec les Altra, je me suis rendu compte que je pouvais talonner, notamment en descente. Et là, non, c'est plus moyen, il y a plus moyen de talonner. Surtout sur des terrains. Là, j'ai pris un modèle trail. Mes Escalante Racer Paris, elles vont faire que de la route, vraiment que de la route. À la limite, si je dois faire du chemin partant un peu plus vieux, etc., je mettrai les vieilles escalantes, hein, qui ont presque 1000 km, mais qui sont pas encore en si mauvais état que ça. Enfin, elles commencent un petit peu à tirer, hein, le mèche, elle commence à se trouer, mais à la limite, pour aller faire des trucs un peu cadouillou et tout, c'est pas très gênant. Et puis, celles-là, ce sont des trails. Donc, c'est un modèle trail. Alors ça veut pas dire qu'ils ont une semelle épaisse et quoi que ce soit, hein. C'est très 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 souple, c'est un vrai chausson, vraiment, c'est super agréable. Mais bon, quand vous passez sur un caillou pointu, c'est là que vous sentez que la semelle n'est pas si épaisse que ça. Donc j'apprends à courir différemment. Quand je dis à courir différemment, c'était... ça me change pas grand chose sur les montées, ça me change un peu sur le plat, où vraiment je me rends compte que des fois il faut que je me force à avoir une foulée mieux posée, une meilleure fréquence, etc. Vraiment je le sens, parce que sinon je pourrais avoir une tendance à me reposer un peu sur le talonnage, hein, tout simplement, surtout en fin de séance. J'ai fait une séance à 11 km et j'ai senti qu'à la fin c'était vraiment compliqué. Là où ça change vraiment, c'est les descentes, parce qu'en descente on a une tendance à se freiner en se mettant vers l'arrière, et là ça pardonne pas, parce que si vous tapez sur les talons quand vous n'avez pas aucune protection dessous, ça fait mal, etc. Et surtout quand vous passez sur des cailloux. L'autre jour, je me suis arrêté pour prendre en photo le caillou pointu qui a agressé le dessous de mon pied. J'ai eu mal pendant 2 jours. Mais vraiment, vous voyez, j'ai posé le pied dessus et après je dis waouh. Et puis même, j'ai marché un petit peu. J'ai dit mais c'est pas possible. À quel point on se rend pas compte la sensation du sol. Pourtant, je trouvais que l'escalante avait une semelle qui était pas très épaisse, hein, déjà. J'avais couru aussi des Lone Peak d'Altra. Je trouve qu'on a la sensation du sol. Mais là, la sensation du sol sous les orteils, avec les orteils séparés, etc., elle est encore plus magique. Elle est vraiment, vraiment beaucoup plus magique. Alors, pour l'instant, je fais des séances d'adaptation. 7, 8, 10 km. Petit à petit, je vais monter. Mon but du jeu, hein, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à faire probablement un mini trail de 12-13 km avec ça. La difficulté pour moi, c'est d'arriver à travailler la descente. Parce que c'est en descente, pour l'instant, que ma position de pied est le plus compliquée. Alors là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait un peu de descente ce matin. J'ai fait de la montée et de la descente. En montée, je suis... Franchement, je suis dans mes records, vous voyez, je suis parti à jeun, etc. Je suis pas trop loin de mes records en n'étant pas à jeun. Vraiment, je suis assez content parce que je vois que ça me permet vraiment de bien poser le pied, d'avoir des bons appuis, etc. Donc je suis super content là-dessus. Sur le plat, je me rends compte aussi que c'est assez agréable d'arriver à envoyer parce qu'elles sont assez légères quand même et c'est assez... On est bien quoi, franchement on est bien de sentir un peu le sol, etc. Ça accroche. Mais en descente c'est un peu compliqué. Il y a des descentes par exemple sur des petits bouts de descente où je mettais 40 secondes, où là j'ai mis 1,09. Donc vous voyez quand même je descends deux fois moins vite ou presque. Deux fois moins vite. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé. Et encore, j'ai accéléré ce matin, j'ai trouvé un moyen d'accélérer un peu plus, de poser un peu mieux les pieds. Et quelqu'un d'entre vous m'a dit, bah oui, mais quand on court comme ça avec des chaussures plus minimalistes, on n'a pas à anticiper, à savoir où on va poser les pieds, on regarde où on va poser les pieds avant de poser les pieds. Et c'est vrai qu'avec les chaussures, on a moins tendance à le faire. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui, je vais pas faire beaucoup plus long que ça, parce qu'en fait, j'ai pas prévu de reparler de ce sujet et j'ai prévu de le faire avec des invités. Hermano, avec lequel on avait parlé de podcast, de marathon dans un épisode du podcast, m'a mis en contact avec des personnes que je vais inviter à venir parler de comment est-ce qu'ils courent. J'ai l'impression qu'il y en a même qui courent pieds nus carrément. Donc comment est-ce qu'ils courent en minimaliste, comment on court pieds nus, comment on court avec des chaussures beaucoup plus minimalistes, quelles sont les étapes, où eux ils en sont dans leur progression, c'est-à-dire moi je suis un débutant dans le domaine, où est-ce qu'ils en sont eux par rapport à ce qu'ils ont fait, et certains ont fait des beaucoup plus grandes distances, et donc ça c'est vraiment très intéressant. Passons maintenant aux 2 livres dont je voulais vous parler, parce que c'est vraiment, je pense, des livres qui peuvent être très intéressants pour vous dans cette période de l'année, surtout si vous vous apprêtez à travailler sur de la très grande distance, enfin sur des grandes distances. Les 2 livres, il y en a un qui est spécialisé marathon, qui s'appelle Objectif Marathon. Alors Objectif Marathon, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions du Chemin des Crêtes. Ils me l'ont envoyé après le marathon. C'est assez marrant parce que quand je l'ai feuilleté, quand j'ai regardé, vous voyez, j'ai tourné les pages, etc. Et j'ai corné une page, et à un moment donné, je regarde le truc et je dis, tiens, il y a des trucs sur la souplesse, etc. Mais il y a des trucs aussi sur éviter le mur. Et vous savez que éviter le mur, c'est ce que j'ai pas réussi à faire. Alors, ce livre-là, il est franchement super, super intéressant. C'est un bon pavé, hein, quand même, je vous le dis, qui fait 320 pages. Il est aux éditions, un livre collectif, a priori. Enfin, il est signé Jean-Claude Volmer, mais il y a d'autres intervenants dedans, etc. Édition du Chemin des Crêtes, je vous mettrai le lien dans les notes de description de l'épisode. Il y a une belle photo d'ailleurs du marathon de Paris devant, là, sur la couverture. Ils étaient au salon du running, hein, donc peut-être que vous avez vu. Donc c'est un livre, je vous donne à peu près le chapitrage, hein, pour vous donner une idée du contenu. Donc il y a une première partie sur les objectifs, les principes généraux de l'entraînement, comment on s'entraîne, combien de fois s'entraîner, les facteurs limitants, etc. C'est assez intéressant. Les types de séances aussi, optimisation d'entraînement, donc l'échauffement, les techniques, préparation physique, musculation, travail de souplesse, est-ce qu'il faut courir sur tapis aussi quand il fait pas beau, comment, et puis ensuite on passe à l'organisation de la préparation, comment on organise la préparation, les fondamentaux d'un plan d'entraînement, c'est-à-dire que plutôt que d'appliquer bêtement un plan d'entraînement, bah, comprendre comment ils sont faits pour construire ensuite son propre plan d'entraînement. Ça, je trouve ça, c'est, vous voyez, c'est une démarche qui est super intéressante. C'est-à-dire que c'est passé au stade supérieur de la connaissance. Vous devenez votre coach en appliquant des programmes qui vous semblent plus adaptés à ce que vous voulez faire vous. Ensuite, derrière, il y a le côté médical, paramédical. Il y a les blessures fréquentes, j'ai oublié, hein, il parle aussi de la planification de la saison, planifier son marathon, mais donc ensuite, tout ce qui est médical, les blessures, la récupération, est-ce qu'il faut un kiné, un podologue, etc., la course à pied et les dents, vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça, et puis ensuite, il y a une partie sur l'entraînement invisible, ou la maîtrise du processus d'entraînement, donc c'est tout ce qui est équilibre alimentaire, la nutrition, phase de préparation, des menus, des recettes, perception de l'effort, s'entraîner sans régresser. Non, s'entraîner mais régresser, c'est-à-dire comprendre le surmenage, et on pourrait dire le surentraînement, l'importance du sommeil, la respiration, un livre dont je ne vous ai pas parlé, j'avais acheté l'an dernier un livre sur le yoga du runner, j'en ai pas fait assez, mais qui parlait en fait des techniques de respiration pour mieux respirer et en fait ouvrir plus sa cage thoracique et donc avoir une respiration plus facile. Je vous en parlerai dans un prochain épisode, parce qu'il faut que je le reprenne, il faut que je refasse les techniques, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais c'est un petit peu compliqué à aborder, mais je vous en reparlerai dans quelques temps de cet aspect-là. Et puis, bien sûr, il y a un truc sur le jour J, gérer son marathon, tout ce qui est nutrition, comment on gère le jour du marathon, comment est-ce qu'on gère les ravitaillements, etc. Et puis ça finit par des conseils, 42 conseils. Vraiment, c'est un livre qui est super complet, qui est vraiment très 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 intéressant. Et puis ils ont une très très bonne idée dedans. Et ils ont quand même glissé des plans d'entraînement. Et ces plans d'entraînement en fait sont sur des posters. En fait, ils ont fait des posters. Donc je suis en train d'en déplier un. Donc c'est pour ça que vous entendrez du bruit. Par exemple, il y a un plan d'entraînement sur 2h30 avec 7 séances par semaine, 2h45, 6 séances, 3h, 5 séances par semaine. Et puis vous avez des 3h30 à 4 à 5 séances par semaine, 3h45, etc. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de plans, et en fait, ils vous montrent le déroulement de semaines, alors eux, sur des plans d'entraînement de 16 semaines, semaine 1, semaine 2, combien de séances, etc., développement, et puis vous dites si c'est du fartlek, de développement de l'aérobie, donc y a, vraiment, vous pourriez l'afficher, en fait, tout simplement dans le hall d'entrée de votre au-dessus de vos baskets, et puis... Enfin, moi, voilà, comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez afficher le poster dans votre hall d'entrée au moment où vous mettez vos chaussures, et puis dessus, bah, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une petite épingle en disant, bah, c'est la prochaine séance que je dois faire, c'est ça. Quand vous prenez vos baskets, vous dites, ah bah tiens, aujourd'hui, je dois faire telle ou telle séance. Ils incluent aussi des séances, par exemple, de PPG, des choses comme ça, et tout ça, en fait, vous avez les notions dans le bouquin. Donc, je trouve que c'est une idée qui est vraiment, vraiment très, très bonne. Donc c'est une lecture, je vous recommande. Il est fait 24 €. Hein, je trouve que c'est un bon investissement et qui vous permet en plus d'apprendre des choses. Et c'est en plus s'appelle Hassan Chadi qui a fait la préface. Hassan Chadi qui mais c'est pas le seul à intervenir parce qu'il y a d'autres éléments etc dedans. Je trouve vraiment que c'est un, vous voyez par exemple à la fin il y a des conseils, on voit qui d'autres ont participé à la rédaction de ce livre parce qu'il est signé Jean-Claude Bolmer, mais en fait on se rend compte qu'il y a plein d'auteurs dedans avec des auteurs peut-être qu'on connaît pas tous parce que c'est des gens qui sont plutôt très pointus dans l'entraînement. Il y a des masseurs, des kinés, etc, mais il y a des médecins, des diététiciens, et vraiment ça fait un livre qui est très 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 complet. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, lui en fait, alors je sais pas si on peut dire que c'est un complément, ça serait plutôt une méthode pour ceux qui voudraient réfléchir un petit peu différemment à leur alimentation, ce qui est mon cas à moi. Donc ce livre s'appelle Ultra Performance, dépasser vos limites avec l'entraînement à glycogène bas. Alors vraiment, voilà, ça vous situe exactement le sujet du bouquin. On n'est pas sur un livre de préparation purement physique, avec des entraînements ou quoi que ce soit. En fait, c'est un livre qui est vraiment, vraiment très 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 intéressant sur la compréhension de l'endurance, de la comment l'endurance se travaille, comment l'entraînement devient profitable et comment l'alimentation peut l'améliorer. Le point de départ en fait du livre, hein, c'est de se dire que si vous prenez des coureurs sur des courses, par exemple de trail, de l'ultra trail, etc., l'une des principales causes d'abandon, bien sûr, il y a la blessure, mais la deuxième cause d'abandon, c'est les problèmes digestifs, c'est l'alimentation. Mais vous avez aussi tous les problèmes. Alors j'ai parlé du mur sur le marathon, on pourrait parler de sentir mal, d'avoir des nausées, d'avoir tout un tas de problèmes, des problèmes gastriques. Moi, je vous dis, je le dis très clairement parce que je m'en cache pas, hein, y a des fois où j'ai eu mal au ventre pendant des séances d'entraînement au point où je suis obligé de m'arrêter dans la forêt pour faire une petite pause, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui me questionne. Et puis moi, qui me questionne sur autre chose, et c'est pour ça que j'en étais venu à ça, c'était aussi la question de moi, j'ai perdu 25 kilos, j'aimerais en perdre un petit peu plus au niveau de la graisse, et je vois que c'est compliqué de taper dessus. J'en avais discuté avec Théo de Fitness Smith, que j'ai invité dans mon podcast Votre Coach Web, et qui m'a dit, bah tiens, tu pourrais lire ce bouquin-là, il a des pistes qui sont intéressantes. Alors effectivement, je suis allé lire un petit peu, j'ai téléchargé ce bouquin-là, je l'ai pris en version numérique, donc il va coûter 7€ en version numérique, il est aux éditions Thierry Soucard, et Thierry Soucard, c'est quand même assez pointu comme édition en général, et là vraiment, j'ai trouvé un livre, alors vraiment, qui est super pointu, hein. C'est fait par le docteur Fabrice Kuhn, avec la préface de Thomas Laure Blanchet, qui est l'ostéo que j'ai vu pour mes problèmes de périostite d'ailleurs, puisqu'il est clermontois, il était champion du monde de trail il y a 10 ans de ça, donc vous voyez, moi je suis dit, bon, bah, il a pas écrit plus que la préface, mais vous voyez, ça fait toujours bien, hein, c'est toujours l'argument de vente. Et dedans, et donc c'est marqué marathon, trail, triathlon, cyclisme, etc. Et vraiment, il vous permet de comprendre le fonctionnement de l'entraînement, qu'est-ce qui rentre dans la nutrition de l'entraînement, à quel moment on progresse, comment on progresse, quelles sont les clés de la performance, quels sont les caractères, les paramètres particuliers qu'il faut maîtriser, et notamment des notions sur l'alimentation et de ce qu'on pourrait entendre. Et notamment, il y a une partie sur l'entraînement à jeun. Est-ce qu'il faut s'entraîner à jeun? Qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne à jeun ou pas? Et puis, il y a aussi une partie sur le régime céto ou et low carb. Donc céto, c'est sans glucides, low carb, c'est avec peu de glucides. Et donc il parle un petit peu, il vous donne pas un plan, parce que il dit en fait, ma méthode, c'est pas du céto qui est difficile à maintenir, et c'est vrai que le régime cétogène est très difficile à maintenir, mais et il montre que ça peut être efficace pour certains, mais pas forcément pour tout le monde. Donc là-dessus, il montre que il y a une efficacité qui peut s'avérer réelle, mais que c'est pas si évident que ça. De même, il parle d'un truc dont on parle dans le Tour de France, qui est les boissons cétones qui sont liées. Et les boissons cétones, on en parle parce que l'équipe ancienne équipe Sky, maintenant Ineo sur le Tour de France, qui a gagné le Tour de France ces autres années avec Froome et compagnie. Eh ben, on disait qu'ils prenaient ces boissons en cétone qui coûtent 2000€ du litre. Alors il dit, bon, voilà, il n'y a pas grand monde qui peut prendre ces boissons comme ça. Moi, j'avais été contacté par une boîte aussi qui avait des pilules pour accélérer tout ce qui était le phénomène cétogène, etc., parce qu'il y a un temps d'adaptation. Donc ça, il en parle. Et ensuite, en fait, il donne des méthodes, des process d'ajustement, en fait, sur comment on pourrait faire des protocoles d'entraînement pour arriver à s'entraîner sans être finalement enfermé dans un céto, dans du low carb, etc. Mais comment est-ce qu'on va utiliser, manger des glucides, etc., sur des moments de la journée ou par rapport à des entraînements particuliers. Est-ce qu'il faut, par exemple, partir à jeun? Est-ce qu'il faut manger juste après avoir couru? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange des glucides? À quel moment est-ce qu'il faudrait les manger, etc.? Et donc, il vous explique ça techniquement sur comment fonctionne le corps. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et moi, je me suis rendu compte en lisant que ça se trouve, par exemple, ce matin, je suis parti courir à jeun. Il dit que c'est pas forcément, ça peut être une efficacité, mais que c'est pas forcément la meilleure efficacité par rapport à mon objectif. Mon objectif en fait à moi, bah, c'est de taper sur des graisses, et peut-être qu'en fait je tape pas sur le bon niveau de graisse parce que ça prendrait les graisses du foie. Alors que ce qui serait intéressant, c'est de taper sur les autres graisses. Donc l'entraînement à jeun peut être intéressant, mais il faut le coupler par exemple avec une alimentation, un protocole d'alimentation un petit peu différent. Donc c'est un livre qui est là-dessus vraiment intéressant. Je dis, la lecture est pas super facile, mais l'auteur le dit et il vous dit un truc qui est assez intéressant. Il dit, bon, si vous voulez vraiment faire vite, vous pouvez aller au chapitre qui doit être le 5, ou le 4 ou le 5 directement, qui vous dit, ben voilà, si vous voulez faire des plannings d'entraînement, dans la partie 5, il y a carrément les plannings d'entraînement avec l'alimentation, etc. Voilà, là il le dit très clairement. Et puis il met aussi des séances de HIIT, mais ça, ça correspond aussi parce que il a fait un livre qui s'appelle PaléoFit aussi sur l'entraînement physique par rapport au running, etc. Et il vous dit aussi que dans les chapitres, vous pouvez lire les chapitres, mais vous pouvez lire que ce qui est grisé. Et dans les parties grisées, en fait, il vous fait un résumé. Et si vous lisez ce qui est à côté des parties grisées, il y a vraiment les sources vers des études, il y a des sources vers des, il vous explique les protéines, comment ça fonctionne, etc. Vraiment, si vous voulez connaître mieux le fonctionnement de l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 intéressant. Mais la lecture, je la trouve un poil ardue. Donc voilà, je vous préviens. Mais c'est un livre qui est là aussi très intéressant. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, bah, vous avez de bonnes lectures pour cet été. Si vous êtes en préparation de course ou pas d'ailleurs, quelles que soient les préparations de course, le livre sur le marathon, vraiment très intéressant, et il n'est pas que sur le marathon, parce que je pense qu'il vous donnera des bonnes informations aussi, surtout ce qui est course à pied en général. Je le précise, hein, les éditions du Chemin des Crêtes avaient aussi un livre qui s'appelle Running et Trail, Objectif Zéro Blessure. Je crois que j'en avais feuilleté une partie, je me demande si je l'avais pas feuilleté ou téléchargé un extrait ou quoi que ce soit, qui semblait là aussi très intéressant. Et puis ils ont aussi des choses sur la randonnée, sur le parapente, sur pas mal d'autres secteurs, hein, autour du sport. Vraiment, le livre sur, je pense, hein, ce livre sur marathon peut vous donner des pistes en général, hein, par exemple le truc sur la respiration, sur la souplesse. Moi je suis pas très souple, hein, j'essaye de travailler ma souplesse, sur la proprioception, sur toutes ces notions là sont assez intéressantes. Ce que je vous propose, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo ou des petites photos en story pour vous montrer un petit peu quelques pages à quoi ça ressemble, hein, ces livres. Alors pas trop le livre Ultra Performance, parce que comme je l'ai en version numérique, ça ne rend pas grand chose, hein, sincèrement, ou je vous mettrai un passage ou deux. Mais le livre Objectif Marathon, peut-être je vous ferai une petite vidéo avec, en tournant quelques livres, pour vous voyez à quoi ça correspond si vous le trouvez pas feuilleté dans votre librairie. Je vous donne rendez-vous sur l'Instagram, mon Instagram perso, instagram.com/@BertrandSoulier, voilà, ou @BertrandSoulier tout simplement. Et vous me trouverez, et je mettrai ça dans le week-end, voilà, dans les jours qui viennent, ou sur mon profil, pour que vous puissiez retrouver l'information si vous écoutez ce podcast quelques jours ou quelques mois après sa publication. Voilà, ben, je vous souhaite à tous là-dessus des bonnes séances d'entraînement. J'ai eu des retours super sympas. D'ailleurs, il y a un retour auquel je n'ai pas eu le temps de répondre et je m'en excuse, mais il m'a fait un beau compte-rendu, et je vois que ben, les problèmes que moi j'ai pu croiser de blessures, de difficultés, de murs du marathon, et ben, bien sûr, hein, je ne suis pas les seuls à les avoir croisés, que pour certains, mes conseils ont pu vous aider, ben, tant mieux. Je pense que aussi, vous avez plein de conseils à m'apporter, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des conseils, si vous avez des lectures que vous jugez vraiment intéressantes, et ben, envoyez-moi vos conseils lecture ou conseils de sites à suivre ou de personnes à suivre pour progresser sur tous ces domaines-là. Et bah, passez un bel été, entraînez-vous bien, quels que soient vos objectifs, que votre objectif soit juste de maintenir la forme, de courir un marathon, de courir un ultra-marathon, de courir, de faire du de l'Ironman, je ne sais quoi. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.